Le rendez-vous scientifique.
Bonjour, c'est Patrick pour l'interview scientifique. Aujourd'hui, on va reparler du mystère du temps.
Aujourd'hui, effectivement, nous allons parler du temps. Mais pour être clair, de quel temps parle-t-on, Patrick ?
En effet, il y a plein de temps. Nous n'aborderons pas la thématique de la météo. Nous allons plutôt aborder l'autre temps, celui qui passe et s'écoule.
Pourquoi est-ce un mystère ?
Alors nous pensons tous savoir ce qu'est le temps. On confond généralement la mesure du temps et sa définition. Quand on parle du temps, on regarde immédiatement sa montre, son horloge ou son portable pour avoir l'heure. On sait mesurer le temps avec une précision extrême. Mais on ne sait pas très bien définir son origine, son concept philosophique, religieux ou encore physique. Mais comment définir le moteur du temps ? De plus, on se heurte à un autre problème. Le temps est tellement présent, il fait tellement partie de notre quotidien que nous nous questionnons rarement à son sujet. Remarquons que l'on n'appréhende jamais directement le temps. On n'observe que des changements et on en déduit l'écoulement du temps. Ceci pose la question suivante. Le temps existe-t-il réellement comme une entité ou est-ce seulement un outil conceptuel ? C'est-à-dire une illusion ou une réalité ? C'est la grande interrogation de nombreux philosophes et scientifiques. Se poser la question « Pourquoi le temps est un mystère ?» semble au prime abord incongru. La plupart d'entre nous pensent que le temps n'est pas un mystère. Il n'y a rien de plus naturel que de regarder sa montre pour appréhender le temps. À ce sujet, le philosophe allemand du 19e siècle, Georges Wilhelm Friedrich Hegel, grand penseur de la dialectique, pose bien le problème. Ce qui est bien connu, parce qu'il est bien connu, n'est pas connu. Ce qui signifie que lorsque l'on pense connaître une chose, sans se poser de questions, on la néglige sans vraiment la connaître. Et c'est bien le problème avec le temps.
Comment peut-on approcher ce mystère ?
Pour essayer de cerner au mieux ce mystère, on peut l'aborder de plusieurs façons. Par la sémantique, par la philosophie, par la religion ou encore par la physique.
Commençons par la sémantique.
On peut remarquer que toutes les langues découpent le temps en un avant, un pendant et un après. Le langage donne d'une manière naturelle une flèche au temps, c'est-à-dire que le temps est orienté uniquement dans le sens du passé vers le présent, puis vers le futur. Le langage donne donc une direction temporelle au temps. C'est ce que l'on appelle la flèche du temps. Par exemple, le temps passe. À cet instant, le futur vient et le passé est derrière nous. Toutes ces expressions donnent l'illusion d'un flux, alors que la physique ne décrit pas un flux de temps, mais des relations entre événements. En physique, on n'écrit jamais que le temps change, mais on définit des variables qui changent par rapport au temps. Le temps est un paramètre et non un phénomène. D'autre part, on se heurte à la langue française, qui donne des sens différents au temps. Le temps peut désigner l'instant, comme le temps présent, la simultanéité, comme en même temps, la durée, comme cela prend du temps, ou encore le vieillissement, comme les dégâts du temps. Toutes ces expressions font appel au temps de la conscience, et ce temps est élastique, selon le contexte. Elles font également appel à des concepts très différents. Elles peuvent difficilement expliquer le concept du temps. On parle également de temps cyclique, biologique, psychologique ou encore géologique. Des temps qui sont vraiment très différents. Ludwig Wittgenstein, philosophe autrichien du langage, est né à la fin du 19e siècle. Il estime que beaucoup de problèmes philosophiques sont dus au piège du langage.
Nous venons d'aborder le concept de flèche du temps. Y a-t-il d'autres concepts ?
On peut considérer que le temps s'écoule linéairement, comme l'a exprimé Antoine de Rivarol, écrivain et journaliste français du XVIIIe siècle. dit-il, le temps est comme un fleuve, il ne remonte pas à sa source. On peut également imaginer que le temps s'écoule cycliquement. On retrouve ce concept dans l'hindouisme ou le bouddhisme, où les renaissances sont perpétuelles. Par contre, ce concept pose un problème de causalité. Si le temps est cyclique, je peux retourner revivre dans le passé et remettre en cause ma propre existence. Ce qui n'est pas possible, puisque je suis devant vous aujourd'hui.
Et que nous racontent les penseurs et les philosophes ?
Comme on peut s'en douter, il y a plein de courants de pensée. Voici quelques idées. Pour saint Augustin, philosophe et théologien né en 354 en Algérie, le temps échappe à la pensée. Il résume bien le problème avec cette célèbre tirade. Ouvrez les guillemets. « Qu'est-ce que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais. Si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. » Fermez les guillemets. La difficulté vient du fait que nous vivons dans le temps, mais nous ne pouvons pas nous en extraire pour le définir objectivement. Il faut prendre du recul pour pouvoir l'étudier. Il est toujours très compliqué, voire impossible, de définir complètement une entité en baignant dedans. Un autre point de vue partagé par certains philosophes est que le temps est une illusion ou encore une construction de l'esprit. Le temps n'est pas une entité réelle, mais une structure produite par la conscience. Pour Emmanuel Kant, philosophe prussien du XVIIIe siècle, le temps n'est pas une propriété des choses, mais une forme de notre sensibilité. Nous percevons les phénomènes dans le temps, mais cela ne signifie pas que le temps existe indépendamment de nous. Pour Henri Bergson, philosophe français né en 1859, il a deux temps. Le temps réel, c'est-à-dire la durée vécue, qualitative et fluide, et le temps spatialisé qui est mesuré par la physique, qui est quantitatif, découpé et artificiel. La vraie nature du temps serait, d'après Bergson, intérieure et non mécanique. Un autre point de vue de certains philosophes est que le temps est un flux. Mais est-il pour autant réel ? Pour Héraclite, philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, le temps correspond au devenir. Nous vivons dans un monde de changement permanent. Le temps est donc l'expression même du devenir. Une de ses citations célèbres, ouvrez les guillemets, « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Parménide, philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, théorise l'être immobile. Pour Parménide, le changement n'est qu'une illusion. L'être est immobile, donc le temps ne peut pas exister réellement. En effet, le changement implique qu'une chose cesse d'être ce qu'elle est ou commence à être ce qu'elle n'est pas. Par exemple, naître ou mourir sont des changements. Ce n'est pas le cas de la vie. Or, tout cela suppose que le changement touche au non-être. Ce que cette chose n'était pas, ce qu'elle n'est plus. Comme le non-être est impensable, le changement est impossible. Donc l'être est immuable, donc immobile. Il y a donc une grande opposition philosophique entre le flux et l'immobilité.
On parle beaucoup du temps de la conscience. Est-ce un temps subjectif ?
En effet, le temps de la conscience est le temps vécu par chacun de nous de manière subjective, par opposition au temps objectif donné par les horloges. Le temps objectif est identique pour tous, il est linéaire et mesurable. Le temps de la conscience est variable et dépend de chacun. Lorsque l'on s'ennuie, le temps peut paraître très long, et très court dans les bons moments. Par exemple, chez les poètes, le temps peut être suspendu, comme chez Baudelaire dans Les Fleurs du Mal. Le temps mange la vie. Ou encore chez Ronsard, c'est le temps qui fuit. Le temps s'en va, madame. Là, le temps non, mais nous nous en allons.
Je voudrais vous poser une question, Patrick. En avançant en âge, on peut constater que la plupart des gens disent, on a l'impression que le temps passe plus vite, les journées passent plus vite, les mois passent plus vite. Pourquoi c'est subjectif aussi complètement ?
Ah, c'est complètement subjectif, on va en parler tout à l'heure. Alors effectivement, c'est le temps de la conscience et c'est complètement élastique.
Je pose beaucoup cette question par rapport aux philosophes, c'est la plusieurs fois que je reviens sur ce terme de philosophe. Mais que disent les philosophes justement sur le temps présent ?
Le temps présent semble exister, mais il est extrêmement bref. Dès qu'on veut le saisir, il est déjà passé. Citons Nicolas Boileau, poète et écrivain du XVIIe siècle. « Le moment où je parle est déjà loin de moi », souligne la fugacité du temps présent. Les philosophes parlent du paradoxe du présent. Le seul moment qui semble réel est celui qui n'a pas de durée.
Que nous disent les grandes religions sur la flèche du temps ?
Il est intéressant de voir que les grandes religions affichent clairement une flèche du temps. Pour le judaïsme, le christianisme et l'islam, le temps est linéaire, orienté et unique. Le monde commence par la création et se développe jusqu'au jugement dernier, dans le christianisme ou l'islam, ou encore l'arrivée du Messie dans le judaïsme. Pour l'hindouisme, le temps est cyclique et éternel. Les univers sont créés et détruits. Pour le bouddhisme, le temps est cyclique, avec une possibilité d'échapper au cycle des renaissances afin d'atteindre le nirvana. Chaque religion apporte donc des visions différentes du concept temporel.
Nous avons passé en revue les aspects sémantiques, philosophiques et religieux, mais que nous dit globalement la science ?
Alors il est intéressant de regarder dans un premier temps comment le sujet a été appréhendé par les différents scientifiques. Par exemple, pour Aristote, philosophe et scientifique grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, le temps n'est que la mesure du changement. Si rien ne change, il n'y a pas de temps. Il faut attendre Isaac Newton, physicien anglais du XVIIe siècle, pour avoir vraiment une approche scientifique. Comme on l'a vu précédemment, l'approche était plutôt philosophique et religieuse. Avec la révolution scientifique, Isaac Newton propose un temps absolu, uniforme et indépendant de tout. Newton l'explique de la façon suivante. Le temps s'écoule uniformément, sans relation à quoi que ce soit. Ce modèle va être la base de toute la physique classique. Le temps est une dimension objective, identique pour tous. Au XIXe siècle, une autre discipline va émerger qui va permettre d'orienter la vision du temps. Les physiciens proposent les fondements de la thermodynamique. C'est la branche de la physique qui étudie l'énergie, la chaleur, le travail et les transformations des gaz liquides et solides. La thermodynamique repose sur quatre lois fondamentales. Mais ici, la loi qui nous intéresse plus particulièrement est la seconde loi. Cette loi nous parle de l'entropie. On va voir que cette loi va donner une nouvelle vision du temps. Il faut ensuite attendre le début du XXe siècle pour que Albert Einstein et sa théorie de la relativité restreinte apportent une nouvelle approche de la théorie de Newton. Les deux théories donnent heureusement les mêmes résultats. Mais quand le champ gravitationnel est très important, la théorie d'Einstein est beaucoup plus précise que celle de Newton. Plus récemment, la théorie quantique et la théorie quantique à boucle nous donnent une nouvelle interprétation du temps.
Reprenons le concept d'entropie. En quoi est-il lié au temps ?
Alors la seconde loi, comme on l'a dit, de la thermodynamique, nous parle d'entropie, qui est une mesure du désordre. Cette loi explique que pour tout système isolé, l'entropie ne diminue jamais. L'entropie ne peut que rester constante ou augmenter. C'est une loi fondamentale de la nature. Par exemple, votre maison est bien rangée. Son entropie est faible. Au fil du temps, le désordre va s'installer. Son entropie va augmenter. Si vous ne faites rien, l'ordre ne reviendra pas tout seul. On passe d'un système très structuré à un système de plus en plus déstructuré. Ce qui est intéressant de remarquer est que l'entropie ne peut plus baisser sans action extérieure. Autre exemple, la chaleur va toujours du chaud vers le froid. Un objet cassé ne se réparera pas spontanément. il faut surtout remarquer que toutes les lois de la physique sont réversibles, à part celle de l'entropie. Par exemple, si l'on filme un phénomène et que l'on passe la vidéo à l'envers, toutes les équations continuent de fonctionner correctement. Les lois de la physique ne peuvent malheureusement pas nous aider à comprendre le temps. Mais heureusement, il y a la fameuse entropie. L'entropie est donc une image de la flèche du temps. Il faut bien comprendre que c'est l'unique loi de la physique qui distingue le passé du futur.
Le vieillissement, d'une manière générale, semble pourtant lié au temps.
En effet, quand on évoque le vieillissement, on fait le lien avec le temps qui s'écoule inexorablement. En fait, le vieillissement est un processus biologique complexe qui est caractérisé, entre autres, par une accumulation de dommages moléculaires, ADN, etc. Une approche intéressante est de considérer le vieillissement comme une augmentation locale de l'entropie biologique. Ces modifications sont, par essence même, un accroissement de l'entropie, donc irréversible. Le vieillissement est un processus entropique où la biologie cellulaire se dégrade irrémédiablement.
Revenons à la relativité, Patrick. Comment modifie-t-elle la perception du temps de Newton ?
On a vu que pour Isaac Newton, le temps est absolu, uniforme et indépendant de tout. Albert Einstein a reçu le prix Nobel de physique en 1921 pour sa découverte de l'effet photoélectrique. Avec sa théorie de la relativité restreinte, il prouve que lorsqu'un corps est en accélération, le temps se déroule moins vite. Les longueurs s'allongent et les masses augmentent. Le temps n'est plus absolu, ni uniforme, ni indépendant de tout. En 1916, Einstein propose sa théorie de la relativité générale. L'univers est un espace-temps qui est courbé par l'énergie et la matière. Pour bien comprendre, imaginons un film étirable, quadrillé, représentant l'espace. L'espace entre les lignes du quadrillage correspond au temps. Lorsque le film n'est soumis à aucune contrainte, le temps se déroule comme Newton l'avait prévu, c'est-à-dire linéairement. Imaginons maintenant un corps céleste que l'on place sur le film. Plus le corps céleste a une masse importante, et plus le film va s'enfoncer et s'étirer. Aux abords du corps, le quadrillage est donc de plus en plus étiré. Les masses se déforment, donc l'espace dilate le temps.
Sur Terre, est-ce qu'il y a des effets visibles de cette relativité ?
Oui, il y a des effets. Par exemple, le temps ne se déroule pas de la même manière en haut d'une montagne qu'au bord de la mer. La gravité est plus grande au bord de la mer, car nous sommes plus près du centre de la Terre. Donc le temps s'écoule plus lentement au bord de la mer. Dans ce cas, la différence est très faible. À 3000 mètres, la différence est de 11 microsecondes par an, c'est-à-dire 11 millionièmes de seconde. De même, tous les satellites GPS sont compensés pour permettre une localisation précise. Deux effets sont compensés, la gravité, ils sont très éloignés du centre de la Terre, et leur grande vitesse. Un autre exemple, bien connu des physiciens, est la détection possible des particules de type muon au sol. Les rayons cosmiques, en provenance d'étoiles lointaines, frappent la haute atmosphère située à environ 15 km de hauteur. Des particules muons sont créées et vont vers le sol à une vitesse proche de celle de la lumière. Le temps de vie propre de la particule mu est normalement de 2,2 microsecondes, c'est-à-dire 2,2 millionièmes de seconde. Sans la relativité, il ne pourrait parcourir que 660 mètres. Il est donc impossible qu'ils atteignent le sol, qui est situé à environ 15 km. Grâce à la relativité, leur temps de vie s'allonge à 33 microsecondes, 33 millionièmes de seconde. Dans ce cas, la distance parcourue est d'environ 10 km et peuvent être ainsi détectés au sol. Une autre anecdote qui est amusante, c'est le paradoxe des jumeaux énoncé par le physicien Paul Langevin au début du XXe siècle. C'est un effet surprenant de la relativité. Par exemple, si on considère Pierre et Paul qui ont 30 ans et sont jumeaux. Paul effectue un voyage spatial vers Procyon, situé à environ 10 années-lumière, soit 10 à la puissance 14 km, qui est énorme, de la Terre, à une vitesse proche de celle de la lumière. Pour Pierre, qui est sur Terre, le vaisseau met 11 ans pour arriver, autant pour revenir. Pierre, resté sur Terre, est âgé donc de 52 ans. Quand le vaisseau revient, il a 30 ans, 11 ans pour aller, 11 ans pour revenir, donc 30 plus de 22, donc ça fait 52 ans, quand Paul revient. Pour Paul, le voyage n'a duré que 5 ans, et autant pour revenir. À son retour, Paul a 40 ans. 30 plus 5 plus 5. Les deux jumeaux ont donc 12 ans d'écart quand ils se retrouvent.
C'est incroyable et surprenant. Alors, on évoque beaucoup la théorie quantique. En quoi celle-ci apporte de nouveaux éléments sur le temps ?
La physique quantique est une théorie physique très aboutie pour décrire le comportement de l'infiniment petit. Sans rentrer dans les détails, en physique quantique, le temps n'intervient pas directement. C'est l'ordre des événements qui est important. Par exemple, mesurer la vitesse d'une particule puis sa position est différent de mesurer sa position puis sa vitesse. Pour Carlo Rovelli, grand spécialiste de la mécanique quantique, la perception du temps n'est qu'une illusion. Le temps est une illusion fabriquée par notre cerveau pour justifier la succession des événements. En résumé, l'histoire est écrite et nous déambulons dedans.
Nous avons parlé du passé, nous avons parlé du présent et de l'avenir. Que dit la science ?
Alors, c'est relativement simple. Le passé est passé et l'avenir n'est pas encore là. Pour certains scientifiques, par exemple, des physiciens en physique quantique, l'avenir est déjà écrit. Le cas du présent est intéressant. Le présent est instantané et n'a de sens que pour des ensembles qui sont proches, comme les objets sur Terre, par exemple. Avant les communications modernes, les nouvelles arrivaient par courrier des jours, des semaines ou encore des mois. Quand la nouvelle arrivait, celle-ci pouvait s'avérer complètement fausse. Le présent est donc instantané. Au niveau de l'univers, le présent n'a pas de sens. Prenons l'exemple de Proxima du Centaure, pour bien comprendre. L'exoplanète la plus proche de la Terre se trouve à plus de 4 années-lumière. Sa lumière met donc plus de 4 années pour nous arriver. On comprend bien que l'instantanéité est dans ce cas impossible.
Le temps a-t-il un début ?
L'univers a un début. Il a débuté sa création il y a environ 13,7 ou 13,8 milliards d'années. À l'origine, l'univers est contenu dans un volume extrêmement petit et sa masse initiale est colossale. C'est la théorie de l'atome primitif proposée par Georges Lemaître, chanoine et cosmologique belge en 1931. Cette théorie est à la base de la théorie du Big Bang. Cette masse de l'univers est tellement énorme que la déformation, comme on l'a vu, de l'espace est également phénoménale. On a vu que plus la déformation est grande et plus le temps est ralenti. Dans ce cas, la masse est tellement grande que le temps ne peut pas exister. Le temps a commencé à exister après le Big Bang, quand celui-ci a amorcé son expansion. Pour l'anecdote, le terme Big Bang a été employé pour la première fois en 1949 par le physicien anglais Fred Hoyle pour se moquer de cette théorie.
En conclusion, le mystère du temps semble vraiment un mystère ?
Comme on l'a vu, définir le temps n'est pas chose facile. Pour les philosophes, le temps est une réalité ou une illusion de l'esprit. Pour les religions, la flèche du temps peut être linéaire ou cyclique. Notre perception du temps est très différente du temps utilisé en physique ou en mathématiques. On a vu que le cours du temps, les instants, et la flèche du temps, les états, sont deux concepts différents. Le présent, c'est l'immédiateté. Il n'a pas de sens au niveau de l'univers. Un concept intéressant est que l'écoulement du temps est lié à l'entropie. Globalement, deux concepts s'opposent. Le temps n'est qu'une illusion pour justifier la succession des événements, nous déambulons dans le temps. Ou le temps est une réalité dont le moteur n'est pas encore compris.
Eh bien, merci pour ce temps que vous nous avez accordé. Merci de ces éclaircissements sur le temps et ses mystères.
C'est un plaisir.
Merci Patrick.
À bientôt.
À bientôt.